Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 9. La piste avait rejoint un affluent sinuant dans le plateau rocheux à près de 5000 mètres. Des tourelles de calcaire hérissaient les rebords du vallon, des grottes piquetaient ce mur défensif et dessinaient des larmes noires dans la paroi. « C'est un royaume pour les panthères, » dit Munier. La bergerie où il voulait installer notre camp de base se situait encore à 100 kilomètres. Un chat de palace, Autocolobus manul, surgit sur un piton au-dessus de la piste, avec sa tête hirsute, ses canines seringues et ses yeux jaunes corrigeant d'un éclat démoniaque sa gentillesse de peluche. Ce petit félin vivait sous la menace de tous les prédateurs. Il semblait en vouloir à l'évolution de lui avoir octroyé pareille dose d'agressivité dans un corps si charmant. « N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge, » disait sa grimace. Au-dessus de lui, une chèvre bleue était plantée sur une arête, la volute de ses cornes enchâssée entre les crénelures. Ainsi, les bêtes surveillent-elles le monde comme les gargouilles contrôlent la ville en haut des beffrois. Nous passons à leurs pieds, ignorants. Toute la journée, ce fut la même gymnastique. Quand nous repérions un animal, nous jaillissions des véhicules, nous rampions, nous braquions les appareils. À peine étions-nous en place que tout le monde avait disparu. Zadoï passa et la piste traversa une gorge à 4600 mètres d'altitude. Nous étions à la bergerie de Bapo, sur la rive gauche du Mekong, à 500 mètres en retrait de la berge. Plus tard, nous baptiserions l'endroit le Canyon des Panthères. Trois baraques de torchis, grandes comme des cabanons de plage, commandaient l'entrée d'un défilé creusé dans le karst. Les crêtes blanches, mangées d'un lichen lit de vin, culminaient à plus de 5000 mètres et s'ouvraient sur d'immenses déclivités où pâturaient les troupeaux. Le filet d'eau gelée s'exfiltrait entre les parois et dessinait trois méandres avant de se jeter dans le fleuve. On marchait 20 minutes pour en gagner les grèves où les yaks domestiques se dirigeaient chaque matin en rêvant de trouver plus gras pâturage que la veille. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de chauffage. Le vent semait les meuglements, les chiens montaient une garde jalouse, la piste courait sous le talus parallèle au fleuve, apportant parfois une visite. La jeep de l'éleveur de yak constituait l'espoir d'une excursion dans le monde moderne, en lieu et place de Zadoï, à 50 km à l'est. La famille de nomades passait l'hiver ici, régnant sur des nuits à moins 20 degrés, et sur 200 yaks en attendant que le printemps revienne et que le vent se calme. Les falaises constituaient un paradis pour la panthère. Les cavités offraient des replis, les yaks et les baralles bleus offraient des provisions de bouche. Les hommes, eux, ne faisaient pas les malins. Nous allions séjourner ici tous les quatre pendant 10 jours. Les trois enfants étaient secs comme des cravaches. La nervosité les protégeait des températures négatives. Gompa, 6 ans, et ses deux grandes sœurs, Jiso et Jia, aux yeux fendus et aux dents blanches, conduisaient les bêtes dans les alpages à l'aube et les ramenaient au campement le soir. Ils passaient la journée dans les rafales à courir le massif, pilotant des animaux 6 fois plus volumineux qu'eux. Ils avaient vu la panthère au moins une fois dans leur vie de 10 ans. En tibétain, panthère des neiges se dit « Saa ». Et les mômes prenaient soin de lancer le mot très fort comme une interjection, avec force grimace et les index ramenés devant la bouche pour figurer les crocs. Le genre d'enfant qu'on n'endort pas avec les contes de Perrault. Parfois, dans une vallée du Haut-Mékong, la panthère raflait un petit enfant, nous avait dit le père. Tugue, chef de famille âgé de 50 ans, nous attribua la plus petite des bâtisses. Les conditions d'un luxe précis y étaient rassemblées. La porte s'ouvrait sur des falaises où rôdaient les bêtes. Les chiens nous avaient adoptés, un poêle chauffait la pièce. Devant le camp, l'eau de la rivière coulait 1 heure par jour au soleil le plus chaud. Parfois, les enfants nous rendaient visite, heures de froid, de silence et de solitude. Paysage immuable, ciel de pierre, ordre minéral et température négative. Jour promis à la stabilité. Nous connaissions notre chance. Nos heures s'équilibrèrent alors entre les marches forcées et les heures d'hibernation. Le soir, nous rendions visite à la famille dans la baraque voisine. Derrière la porte de bois régnait une tiédeur obscure. La mère barattait le thé au beurre, rythmant le silence. Au Tibet, les pièces familiales sont des ventres chauds où racheter les jours de grésil. Un chat dormait, recelant dans ses veines le gène dilué de la panthère. Pour avoir choisi de ronfler au chaud, il ne connaîtrait plus la jouissance de saigner un yak. Son lointain parent, le lynx, continuait à vivre dehors, préférant la tourmente à la torpeur. Un bouddha, dans ses dorures, chatoyait à la lueur des lampes à huile, et le bourdonnement de l'air nous engourdissait suffisamment pour que nous supportions de nous regarder les uns les autres sans prononcer un mot. Nous ne désirions rien. Bouddha avait gagné. Son nihilisme infusait l'engourdissement. Le père égrenait son chapelet. Le temps passait. Le silence était la marque de notre dévotion à son égard. Kobani Nachi Kalhasnel Ainastichani. À lundi prochain pour un 10e extrait de La Panthère des Neiges. Vanashe.